Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Hassan Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Anatole Lebraz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agrégé et docteur en histoire, chercheur postdoctorant au Centre d'Histoire et d'Économie à Paris, faisant partie de Sciences Po Paris. Vous publiez « Aliénés, une histoire sociale de la folie au XIXe siècle » chez CNRS Éditions. C'est votre deuxième livre chez le même éditeur. Le premier, c'était « Un enfant à l'asile », vie de Paul Teche, 1874-1914. Vous nous prévenez en introduction de ce livre que ce n'est pas une histoire de l'asile en tant qu'institution, ni de la psychiatrie en tant que discipline médicale, mais une histoire sociale de la folie, c'est-à-dire que c'est l'étude de la trajectoire des individus que l'on va qualifier d'aliénés, qui commence avant qu'ils ne rentrent à l'asile, qui se poursuit pendant leur internement, c'est-à-dire ce qu'ils y font et ce que l'asile fait d'eux, et leur devenir après la sortie. Un petit mot, Anatole, pour commencer sur la terminologie, parce que vous citez énormément de références et de livres dans votre livre, et on retrouve souvent le mot « fou » ou « folie » dans le titre, mais pas forcément dans le texte. Alors, quelle différence entre « fou » et « aliéné » et pourquoi vous avez choisi « aliéné »
Alors, d'abord parce que « aliéné », comme « aliénation mentale », comme « aliéniste » pour désigner les médecins qui se spécialisaient dans l'étude des maladies mentales, ce sont les termes de l'époque. Donc c'est principalement pour cette raison que j'ai employé ce terme. La loi de 1838, elle est connue comme la loi sur les aliénés du 30 juin 1838, et on parle d'asile d'aliénés. C'est en même temps un terme auquel s'est surajouté aussi avec le temps l'idée d'une aliénation sociale. L'aliéné, c'est pas seulement celui qui est aliéné à lui-même, c'est aussi celui qui est aliéné par un certain nombre de processus sociaux. Et donc c'est pour ça que c'est un terme intéressant pour l'historien aussi. Quant à celui de fou ou de folie, il peut avoir un sens assez péjoratif, donc c'est pour ça que parfois on peut être un petit peu prudent avant de l'utiliser. Ou il peut renvoyer aussi finalement à la folie dans un sens assez commun, dans une acception assez large, un terme qu'on n'utilise pas toujours très, très rigoureusement. Mais c'est aussi pour ça qu'il est intéressant, parce que justement il renvoie finalement à la dimension anthropologique du phénomène, par opposition à des termes qui seraient ceux, par exemple, de maladie mentale, qui renverraient plutôt à une acception déjà un peu plus strictement médicale du sujet. Donc c'est à ce titre qu'il est souvent employé par les historiens, et qui se trouve là, en l'occurrence, dans le sous-titre de mon livre, « Une histoire sociale de la folie au XIXe siècle », pour signaler en quelque sorte que, là, dans l'occurrence, je m'intéresse au phénomène, pas seulement dans son sens restreint, pas seulement dans le champ des institutions psychiatriques, mais en essayant d'avoir un regard un petit peu plus large sur cet objet folie qui n'était pas défini que par les médecins et pas que dans les asiles.
Donc si je comprends bien, le fou acquiert un statut juridique, celui d'aliéné, par la fameuse loi du 30 juin 1838. C'est le point central, cette loi de ce qui va régir la condition aliénée au XIXe siècle, puisque votre livre s'intéresse au XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale, hein, les deux premières décennies, disons, du XXe siècle. Et donc c'est ce qui va structurer aussi votre livre. Est-ce qu'on peut dire en quelques mots quelles sont les principales dispositions de cette loi de 1838 ?
Oui, alors elle n'arrive pas tout à fait dans un vide, puisqu'il existe déjà des établissements spécialisés pour aliénés, en particulier depuis le début du XIXe siècle. Il y a de plus en plus d'institutions médicales qui prennent en charge les aliénés et qui les distinguent du reste des autres catégories de population avec lesquelles ils pouvaient encore beaucoup être mélangés au XVIIIe siècle, comme les mendiants, les vagabonds, les prostituées, etc. Cette loi de 1838, elle est néanmoins déterminante parce qu'elle va imposer, disons, à chaque département de trouver une solution pour s'occuper de ces aliénés, ce qui peut être en créant un établissement public ou en passant un traité avec un département voisin ou encore en s'accordant avec un établissement privé, religieux ou non, pour s'occuper de ces aliénés et donc pour remplir les obligations découlant de la loi de 1838. La loi, elle distingue aussi les modes de placement à l'asile. Elle distingue principalement le placement volontaire, qui est un placement fait à la demande des proches, et le placement d'office, placement qui s'effectue sur demande de l'autorité préfectorale ou du maire en cas d'urgence. Dans le premier cas, en règle générale, mais il y a des situations assez variables, et il y a beaucoup d'exceptions à la règle, mais dans le premier cas, dans le cas du placement volontaire, c'est en général la famille de l'aliéné qui va être mise à contribution financièrement. Dans le second cas, c'est plutôt le département et la commune de résidence de l'aliéné qui vont être mis à contribution à part variable.
Et vous l'avez dit, cette loi n'arrive pas dans un vide juridique. Il y avait déjà avant une notion d'interdiction. Est-ce qu'on peut dire en quelques mots ce que c'est ? Et puis, on le voit aussi dans le livre, les deux notions ne s'opposent pas, mais se complètent.
Oui, alors l'interdiction, c'est cette procédure de mise sous tutelle juridique qui est prévue dans le Code civil de 1804 et qui, effectivement, était souvent requise comme un préalable au placement dans une institution avant la loi de 1838. Donc il fallait d'abord pour une famille faire procéder à l'interdiction judiciaire, validée par le tribunal civil, avant de placer l'aliéné dans une institution. En réalité, dans la pratique, il y a plusieurs études qui l'ont montré. Je pense notamment à un article de l'historien Jacques-Guy Petit sur la folie dans le Maine-et-Loire dans les premières décennies du XIXe siècle. Bien souvent, en fait, les autorités acceptaient des placements d'aliénés, même s'ils n'étaient pas interdits, à partir du moment où leur état de folie était notoire et continuel. Donc il y avait une sorte de tolérance des autorités vis-à-vis de ces pratiques. Toujours est-il que cette procédure d'interdiction, elle est assez longue, elle est assez coûteuse, donc elle présente beaucoup d'inconvénients pour les familles. Et donc les législateurs de 1838, quand ils élaborent cette loi qui aboutit le 30 juin 1838, ils veulent un petit peu se débarrasser des lourdeurs de cette procédure et ils font de l'internement un acte purement administratif qui est assez rapide, qui s'accompagne de la soumission d'un certificat médical, mais qui pour le reste est un acte administratif décidé par le préfet. Donc ce qui va permettre d'avoir une action très, très prompte et très rapide pour réguler les troubles à l'ordre public que pouvaient occasionner les aliénés.
Vous avez étudié trois structures dans le livre. Il y a l'asile de Quimper, il y a le quartier des femmes à Morlaix, donc tous deux en Bretagne et dans un milieu rural, et puis l'asile de Ville-Évrard dans le département de la Seine, aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Et donc ça permet de comparer le milieu rural et le milieu urbain et on voit en fait des différences sur quasiment tous les points de prise en charge. Quelles sources au sein de ces institutions avez-vous pu exploiter ?
Alors, dans chacun de ces asiles, alors, qui pour certains ont conservé leurs archives sur place, c'est le cas à Ville-Évrard, par exemple, où il y a un service des archives qui est présent dans un des pavillons de l'hôpital. Pour d'autres, qui ont versé leurs archives aux archives départementales, auquel cas on le trouve généralement dans les séries H-Dépôt des archives départementales. Donc pour tous ces établissements-là, généralement on a accès à un certain nombre de sources, on va dire, standardisées, parmi lesquelles on trouve notamment des rapports médico-administratifs, donc qui permettent de se faire un peu une idée du fonctionnement institutionnel, du cadre dans lequel on va procéder au placement, aux internements, et puis qui documentent de manière générale un petit peu la vie de l'institution sous tous ses aspects. On trouve aussi des registres d'entrée, qu'on appelle parfois livres de la loi, parce que leur tenue était obligatoire au titre de l'article 12 de la loi de 1838. C'était des registres en fait, où il fallait consigner les dates d'entrée, de sortie ou éventuellement de décès de chacun des internés, et puis en y recopiant aussi tous les certificats et les arrêtés préfectoraux qui avaient accompagné un peu le parcours asilaire de chacun des internés. Ces registres d'entrée, c'est une des sources principales que j'ai exploitées, notamment pour tout le versant un petit peu quantitatif de mon travail, pour décrire un petit peu les trajectoires et donner aussi un petit peu une description d'ordre statistique de ces parcours dans les asiles. Autre grand massif de sources, ce sont les dossiers individuels d'internement, dont la conservation peut être très variable selon les institutions. En l'occurrence, parmi celles que j'ai étudiées, il y avait des dossiers très bien conservés à Quimper et à Ville-Évrard. En revanche, il n'y en avait pas à Morlaix, où étaient placées les femmes aliénées du département du Finistère. Et donc ces dossiers constituent une source très très riche qui a beaucoup été utilisée par les historiennes et historiens de la psychiatrie ces dernières décennies, notamment tous ceux qui essayaient d'adopter, comme moi, une démarche, un regard d'histoire sociale sur les pratiques d'internement psychiatrique. Parce que dans ces dossiers, on trouve non seulement de la documentation médicale, administrative, mais aussi bien souvent de la correspondance et beaucoup de choses qui permettent de documenter un petit peu les parcours de vie et de donner une certaine densité aux trajectoires biographiques. Plus ponctuellement, il y a énormément d'autres sources en fait, qui sont produites par ces institutions asilaires et qui peuvent servir à beaucoup d'usages. Mais dans le cadre de ma thèse et du livre, j'ai notamment eu recours à une source assez intéressante qui est les rapports journaliers des surveillants-chefs des asiles, là, qui foisonnent un petit peu de détails sur la vie plus intérieure des institutions, même si ce n'est pas l'angle principal que j'ai choisi pour mon étude.
Alors vous avez aussi utilisé des documents juridiques, parce qu'il y a beaucoup de recours juridiques possibles, des journaux également. Et vous vous êtes aussi servi de documents produits par les aliénés internés. On en reparlera tout à l'heure pour dire leur contenu, mais il y a beaucoup de lettres. On voit, c'était mon impression en tout cas, qu'une minorité d'aliénés a écrit, mais parmi eux, certains ont été très, très prolifiques. Il y a aussi des dessins, certains qui sont reproduits dans un cahier à l'intérieur du livre. Et donc ça permet de ne pas se limiter à l'histoire du point de vue institutionnel, mais de faire une histoire par le bas, à hauteur de patient. Et je voulais vous demander quelle valeur vous donniez à ces écrits, qui certes permettent d'avoir une autre facette de l'internement, celui de la personne concernée, mais en même temps il s'agit de fous ou d'aliénés. Comment faites-vous pour ne pas surinterpréter leurs écrits ?
Oui, alors tout ça, ce sont des questions très, très délicates, effectivement, mais aussi passionnantes pour l'historien. Alors, bien sûr, déjà, la première chose à dire, c'est qu'effectivement, avec ces écrits, on a la promesse d'accéder peut-être d'un petit peu plus près aux expériences vécues des internés. Ce sont souvent des sources qui sont des sources de la plainte, de la protestation, du conflit ou du désaccord, parce que quand on écrit à l'asile, c'est souvent pour manifester un désaccord. Et donc, de ce point de vue, ce sont des sources qui sont intéressantes parce qu'elles vont généralement nous permettre de documenter des réalités ou des aspects des parcours qui peuvent être par ailleurs tus ou euphémisés par les médecins. Et ça apporte souvent aussi des éléments très intéressants pour comprendre sous un autre angle les trajectoires, pour comprendre sous un autre angle aussi les diagnostics en pouvant les replacer dans l'évolution aussi d'une subjectivité et d'un parcours de vie. Il y a ce statut particulier aussi de ces documents qui est qu'ils émanent de personnes qui ont été catégorisées d'aliénés mentales au XIXe siècle. Alors pour moi, il n'était pas question d'analyser ces documents à l'aune d'une grille de lecture psychopathologique, parce que je ne suis pas médecin, parce que l'idée était de ne pas non plus reproduire le regard médical et disqualifier ces propos comme pouvaient le faire les médecins aliénistes du XIXe siècle sur le fondement de leur déraison. Donc j'ai principalement pris le parti de traiter ces sources comme des sources comme les autres, d'autant que la plupart de ces écrits, même s'ils peuvent avoir une composante délirante, je dirais qu'ils contiennent quand même souvent des couches de signification qui sont parfaitement accessibles et parfaitement compréhensibles, dans le sens où, par exemple, une demande de sortie de l'asile, même formulée dans des termes qu'on pourrait considérer comme un petit peu chaotiques, erratiques, etc., ça reste une demande de sortie de l'asile et ça peut être interprété comme tel. De plus, les délires peuvent avoir un contenu historique, social, politique, qui peut être analysé par les historiens. Évidemment, beaucoup d'exemples de cette démarche, mais on peut simplement citer, par exemple, la démarche de l'historienne Laure Murat, qui a un petit peu relu l'histoire politique du XIXe siècle français par le prisme de cette documentation asilaire qu'elle a tirée des archives des institutions psychiatriques au XIXe siècle. Alors, reste que, malgré tout, au gré des dossiers, c'est vrai que parfois on tombe sur des écrits qui résistent un peu plus à l'analyse. Si on fait comme si le trouble mental n'existait pas, on risquerait peut-être de réduire la signification de ces documents, de manquer quelque chose, de reproduire une forme de malentendu peut-être aussi sur leur signification, la valeur des mots. Il y a beaucoup de sociologues qui ont réfléchi à cette question parce que dans le cadre d'entretiens qu'ils peuvent mener avec des patients d'institutions psychiatriques, ils sont confrontés de manière encore plus aiguë, on va dire, à cette question-là. Pour ma part, j'ai peut-être pas complètement échappé à une tendance à survaloriser, on va dire, la part la plus rationnelle, la plus accessible de ces écrits. Et donc, je prétends pas avoir trouvé le positionnement vraiment idéal vis-à-vis de ces écrits. Mais en tout cas, ça soulève beaucoup de questions méthodologiques et de la posture de l'historien qui sont très intéressantes.
Retraçons ensemble, Anatole, le parcours des aliénés. C'est aussi le plan du livre, hein, c'est ce qui se passe avant, pendant et après. Et on voit tout d'abord que tout le monde ne rentre pas à l'asile. Et c'est notamment le cas en Bretagne, où les aliénés sont parfois maintenus de force à domicile. Vous montrez qu'ils sont littéralement enchaînés à un lit typique breton dont je n'ai plus le mot en tête.
Le lit clos. Oui.
Le lit clos, voilà. Et bon, pour bien nommer les choses, c'est une séquestration hein, en pratique. Et qu'est-ce qui pousse les proches de ces aliénés à garder séquestrés leurs parents à la maison plutôt que de les confier à l'institution ?
Peut-être avant de répondre, effectivement, on a dit un mot il y a un instant de toutes les archives produites par les institutions psychiatriques sur lesquelles j'ai pu appuyer mon travail. Mais il y a aussi tout un autre versant de mon travail qui a consisté justement à trouver des sources en dehors des fonds des asiles d'aliénés. Et donc ces affaires de séquestration à domicile en faisaient partie. Là, par le biais de l'archive judiciaire, on pouvait avoir accès à des situations qui autrement sont difficilement documentables. Alors, ces affaires-là, par conséquent, elles ont un côté un petit peu exceptionnel, mais en même temps, elles sont révélatrices de manières de faire qui étaient peut-être un petit peu plus répandues que le sommet de l'iceberg, on va dire, que constituaient les affaires qui étaient jugées, qui passaient devant les tribunaux. Ce qu'on constate en fait en examinant ces affaires, c'est que souvent justement la séquestration qui a donné lieu à l'intervention de la police ou de la gendarmerie et puis ensuite qui a donné lieu à un procès des parents, je dis parents parce que souvent c'était des membres de la famille proche séquestrateurs, souvent cette séquestration en fait elle s'inscrit un peu dans un continuum de mesures d'enfermement, de contention, de contrôle des personnes ayant la réputation d'être aliénées. Qui parfois ont abouti jusqu'à une séquestration de très longue durée et parfois dans des conditions assez épouvantables. Pourquoi ces familles, le plus souvent vivant à la campagne, gardaient l'aliéné chez elles ? Je crois que ça signale d'abord une forme de tendance à régler ces problèmes par soi-même, une forme de distance avec les institutions de soins, avec les autorités étatiques au sens large. La fin des terroirs, hein, c'est un processus très long, de longue durée au cours du XIXe siècle. Parce que aussi l'honneur de la famille est en jeu, sa réputation est en jeu, notamment vis-à-vis de la communauté villageoise. Et donc ce qu'on voit assez souvent, ce sont des proches qui finissent par séquestrer un aliéné pour que celle-ci ou celui-ci cesse de causer du dommage aux habitants du village et par conséquent à la réputation de la famille. Et puis, je pense qu'on peut souvent aussi y voir une forme aussi d'impuissance face aux manifestations de la maladie mentale. On ne sait pas forcément bien comment réagir, on n'a pas forcément les moyens médicaux qui permettent d'y faire face. Et dans ces situations, bien souvent, il y a une forme d'engrenage qui s'établit où l'enfermement, la séquestration se fait de plus en plus rigoureuse face aux réactions de l'aliéné qui parfois peut s'agiter ou devenir violent, qui conduit finalement à des situations de claustration parfois extrêmes.
Ces séquestrations à la maison en milieu rural, vous le montrez, elles ne sont pas secrètes. Effectivement, la communauté villageoise est au courant. On voit que les notables, donc le maire, le médecin, le curé, l'instituteur, sont un peu complices puisqu'ils ne dénoncent pas l'autorité judiciaire et donc participent un peu à cet enfermement. Et donc, dans quelle mesure ce regard social, cette pression sociale participe à la durée de l'internement? À quel moment est-ce qu'il y a une pression sociale qui dit que, bon, là maintenant, on peut faire sortir l'individu?
Alors effectivement, oui, les séquestrations sont rarement complètement secrètes. Il peut y avoir hein, dans certaines affaires une volonté de dissimulation de l'état mental de la personne qui est enfermée, dissimulation au regard du voisinage. Mais le plus souvent, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, le voisinage est au courant de la situation. Et il y a des cas où l'aliéné séquestré est d'ailleurs presque intégré à des formes de rituels avec la population du village. J'ai à l'esprit le cas d'Albin Le Goualec, que je détaille un petit peu dans le livre, qui est un jeune homme qui est enfermé par son père dans l'écurie de la ferme familiale dans un petit village à la frontière entre le Finistère et le Morbihan dans les années 1870, pour resituer les choses, et qui régulièrement, et notamment à l'occasion du pardon, donc de la cérémonie religieuse qui est organisée annuellement à la chapelle la plus proche, va faire l'objet de visites par le reste de la famille ou par les autres habitants du village, visites qui sont en quelque sorte organisées, orchestrées par la famille, qui voit en quelque sorte une manière peut-être de canaliser un petit peu la curiosité du voisinage et donc de faire une place, paradoxalement aussi, à Albin, ce jeune homme enfermé, dans la communauté. Toujours est-il que ce regard de la communauté villageoise, souvent, il va effectivement permettre une installation de la séquestration dans la durée, parce que les figures de la notabilité locale semblent souvent avoir été mises au courant. Et il y a beaucoup de cas, ou en tout cas, bon, ça fait partie des stratégies de défense des accusés aussi, mais il y a beaucoup de cas où les accusés disent qu'ils sont allés parler de la situation au maire de la commune, et puis que le maire de la commune, qui ne voulait pas engager des frais pour l'internement à l'asile de l'aliéné, a plus ou moins avalisé la solution de la séquestration à domicile. Alors, quand est-ce que ces séquestrations prennent fin ? C'est souvent au moment de l'intervention de la police ou de la gendarmerie. Et là, parfois, les ressorts de ces interventions peuvent être un petit peu mystérieux. Souvent, ce sont des interventions qui sont déclenchées par la rumeur publique. Et les travaux des historiens de la justice au XIXe siècle ont montré que, notamment dans les campagnes, finalement, ces histoires de rumeurs publiques, elles pouvaient renvoyer à des formes de contrôle social exercé par les populations. Et donc, on peut penser que parfois, quand ces circuits de la rumeur se déclenchent, c'est parce qu'il y a des personnes qui considèrent peut-être qu'un seuil a été franchi dans les mauvais traitements et qu'on ferait bien d'aller regarder de plus près. Et donc, on peut supposer que parfois, dans ces interventions de la police ou de la gendarmerie, il y a quand même, malgré tout, une forme de contrôle et de limite qui est mise par la population à ces pratiques des familles séquestratrices.
Oui, parce que vous le montrez, parfois, il y a des vrais sévices. Hein, c'est des privations de nourriture, de sortie, de contact, d'habillement. Donc, effectivement, peut-être qu'à un moment, quelqu'un tire la sonnette d'alarme. Cette loi de 1838, elle prévoit de pouvoir interner, je reprends les termes de la loi, toute personne dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sécurité des personnes, y compris d'ailleurs pour empêcher l'aliéné de nuire à lui-même. Et donc vous détaillez les causes qui peuvent entraîner l'internement. Il y a des maladies mentales, et il y a aussi des états d'alcoolisme ou de violence sur la voie publique. Qu'est-ce qui fait que dans un cas, on va plutôt mettre en prison et dans un cas, plutôt à l'asile ?
C'est une question très, très complexe et il faut, pour y répondre, souvent un peu plonger dans le détail des parcours, de ces moments un petit peu de bifurcation justement, où on va orienter une personne à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Tout d'abord, un premier élément de la réponse, c'est qu'il y a un certain nombre de micro-troubles, on va dire, à l'ordre public qui sont régulés de cette manière-là. On peut avoir des aliénés qui sont appréhendés sur la voie publique ou par l'appel des voisins à la police, sans qu'ils aient commis à proprement parler de crime ou de délit, mais parce qu'ils ont un comportement menaçant, une allure dangereuse ou qui montre une grande forme d'agitation. Donc là, dans ces cas-là, voilà, ce sont des occasions de détecter des troubles mentaux et d'orienter ces personnes vers l'asile d'aliénés. Dans d'autres cas, il y a effectivement des crimes ou des délits qui sont commis, et parfois... Alors ça peut mener jusqu'au tribunal et ensuite, si la personne est jugée irresponsable, dans ce cas-là, elle est envoyée à l'asile d'aliénés plutôt qu'en prison. Mais ce qui se passe souvent aussi, c'est qu'en fait, en amont du passage par l'appareil judiciaire, on va orienter des personnes qui ont commis des délits, par exemple, vers l'asile d'aliénés. Et là, ça se juge en fonction des situations, en fonction des réputations aussi, de ce qui se dit, de ce qui se sait par l'interconnaissance et de tous ces éléments qu'ont en tête les policiers, les gendarmes quand ils interviennent et qu'ils appréhendent un individu. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que si on adopte un regard un peu plus macro sur la question, les courbes de population des asiles d'aliénés et des prisons françaises au XIXe siècle, elles sont parfaitement symétriques, c'est-à-dire qu'à mesure que la population enfermée en prison diminue, celle enfermée à l'asile d'aliénés augmente, notamment des travaux de Bernard Harcourt qui ont montré ça. Donc c'est certain qu'il y a des choses qui se jouent un peu dans cet équilibre entre institutions d'enfermement.
Vous montrez, Anatole Lebras, que l'internement est une pratique qui est marquée socialement. C'est-à-dire votre chance, entre guillemets, enfin plutôt la malchance d'être admis, elle dépend de votre classe sociale et de votre niveau de revenu. Est-ce que l'internement reproduit la hiérarchie sociale du monde extérieur ? Et une fois qu'on est admis, est-ce que ces différences entre individus de classes différentes se voient au sein même de l'asile ?
Alors oui, effectivement, ces pratiques d'internement, elles reproduisent ces hiérarchies. En même temps, parfois, elles les perturbent un petit peu. Elles les reproduisent dans le sens où, tout d'abord, pour les individus des classes fortunées, il y a tout un réseau d'institutions privées qui existent, des maisons de santé privées, plus ou moins chères, à Paris et dans sa proche banlieue. Évidemment, il y en a beaucoup qui sont accessibles aux familles les plus riches. Ce n'est pas des choses que j'ai intégrées à mon corpus d'études, mais ça existe, effectivement, et donc... Pour les individus des couches supérieures de la société, il y a tout cet accès à ce réseau un petit peu parallèle de prise en charge qui peut permettre d'éviter à un individu la dégradation, le stigmate du passage par l'asile public d'aliénés. Cela dit, à l'asile même, dans beaucoup des asiles d'aliénés, on constate qu'il y a quand même une certaine diversité sociale au sein de la population internée, dans la mesure où il y a des places de pensionnat payants avec différentes classes de pensionnat. Généralement, on distingue trois classes de pensionnat qui sont proposées. Donc, ça fait que malgré tout, les élites sociales, elles sont présentes en petit nombre, mais elles ne sont pas complètement absentes de ces institutions. Mais effectivement, à l'intérieur de ce grand monde très complexe et très segmenté qu'est l'asile d'aliénés, les différentes classes sociales ne vont pas forcément se mélanger, dans le sens où il y a effectivement ces différentes classes de pension. À l'asile de Villévrard, c'est très net, hein, il y a toute une partie du site de l'asile qui est consacré à l'asile public pour aliénés indigents. Et de l'autre côté, on trouve toute la maison de santé qui fait office de pensionnat payant. Et au sein même de cette maison de santé, on essaie de distinguer les différentes classes de pension. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que ce principe d'ordonnancement social, il entre parfois un petit peu en tension avec un autre principe d'ordonnancement qui est plutôt médical, où on va essayer de classer les aliénés en fonction de leur degré d'agitation et de leurs caractéristiques pathologiques. C'est très important aux yeux des médecins aliénistes qui estiment qu'un bon asile d'aliénés, c'est un asile qui va réaliser le mieux possible ce classement, cette classification des malades. Et donc, parfois, ce n'est pas toujours possible de combiner ces deux modes d'ordonnancement. Et par exemple, à la maison de santé de Villévrard, ça suscite des critiques, des protestations des familles qui ont placé un malade à la première ou à la deuxième classe de pension et qui en fait constatent qu'il est souvent mélangé avec des malades de troisième classe et qui s'en plaignent assez vertement auprès du médecin-chef de la maison de santé.
Et cette pratique d'internement, elle est aussi genrée, hein. Je donne deux exemples, mais qui admettent évidemment des exceptions. C'est que le placement volontaire est une prérogative masculine. C'est souvent le mari, le père, voire les oncles ou un frère qui vont demander l'internement volontaire. Et puis la probabilité d'internement augmente et, à l'inverse, celle de sortie diminue si vous êtes une femme non mariée, c'est-à-dire célibataire ou veuve, où là, à ce moment-là, l'internement peut se prolonger. Donc est-ce que la prise en charge de la folie féminine suit elle aussi la place assignée aux femmes dans cette société du 19e siècle ?
Alors oui, indéniablement, elle a quelque chose à voir avec la place des femmes dans la société au sens large. Mais peut-être ce qu'il faut préciser, c'est tout de même que les femmes ne sont pas majoritaires au moment de l'admission. Contrairement à ce qu'on croit parfois, il y a davantage d'hommes qui sont internés chaque année. Hein. Il y a un surplus masculin assez net de l'ordre de 15% tout au long de la seconde moitié du 19e siècle. Et ça a à voir, bien sûr, avec ce qu'on a déjà un petit peu commencé à dire de l'internement et de sa fonction aussi de régulation sociale, de maintien de l'ordre public, parce qu'il y a des formes de déviance masculine qui sont notamment l'alcoolisme ou les comportements violents qui, de fait, vont occasionner davantage de placements à l'asile. Et donc, c'est pour cela qu'on a ce surplus masculin. Cela dit, donc oui, les trajectoires asilaires des femmes ont quelque chose d'un petit peu différent de celle des hommes et qui est assez révélateur. Les femmes restent plus longtemps à l'asile, ce qui, dans le discours médical, finit d'ailleurs par se traduire par une espèce d'idée d'une forme de résistance des femmes au traitement, qui n'est jamais complètement expliquée, mais qui devient un peu une sorte de lieu commun dans le discours des aliénistes, mais qu'on peut aussi relier, en fait, en analysant les registres et les dossiers, à des formes de réticence des médecins à laisser sortir des femmes, en particulier si elles étaient célibataires, alors qu'ils n'auraient pas forcément eu les mêmes scrupules au moment de laisser ressortir de l'asile un homme célibataire, en suivant l'idée que finalement un homme célibataire allait pouvoir s'en sortir en revenant à la vie civile, tandis que la sortie d'une femme isolée était beaucoup plus risquée, beaucoup plus dangereuse pour la femme elle-même. Un autre élément qui pèse un petit peu sur le destin des femmes internées, c'est la pratique du transfert depuis les asiles de la Seine vers les asiles de province. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais cette pratique du transfert qui est assez massive, elle touche en fait surtout des femmes et donc participe à diminuer leur chance de sortie de l'asile.
Cet internement, on l'a vu, participe à la tranquillité publique, mais pas que, parce qu'à la même période, la doctrine que la folie est curable s'affirme. Et donc, la conséquence, c'est qu'il faut aussi traiter, soigner les aliénés du point de vue médical. Et là, tous les médecins ne sont pas d'accord sur l'intérêt de l'enfermement, ni même sur la rigueur qu'il doit avoir. Et vous citez quelques exemples dans le livre. On peut peut-être dire un mot sur Évariste Marandon de Montiel, qui est le médecin-chef de Villévrard, qui, lui, est peut-être un peu précurseur parce qu'il prône un asile ouvert sur l'extérieur.
Oui, Évariste Marandon de Montiel, il arrive à l'asile de Villévrard en 1889. Et donc, effectivement, contrairement à un certain nombre de ses collègues qui sont peut-être plus conservateurs sur ce point-là, il développe une doctrine d'ouverture de l'asile d'aliénés en se basant sur la constatation et sur la conviction que couper l'aliéné de tous ses liens avec l'extérieur n'était pas forcément favorable à sa guérison. Ce qui est une idée qui met du temps à cheminer au sein de la profession aliéniste, parce que la doctrine de l'isolement thérapeutique, elle était vraiment fondatrice hein, des réflexions, notamment d'Esquirol, grande figure fondatrice de l'aliénisme français, et qu'elle était au fondement aussi de la loi de 1838 avec cette idée que l'isolement par lui-même, donc le simple fait de placer un malade, d'arracher le malade à son milieu d'origine et de le placer dans une institution, allait avoir des vertus curatives en soi. Marandon de Montiel, avec quelques autres de ses collègues un petit peu réformateurs, il commence à estimer que, notamment pour préparer la sortie, il ne faut pas perdre de vue la nécessité de stimuler socialement le malade, finalement, ne pas le laisser un peu aller à la vie végétative de l'asile d'aliéné, et donc qu'il faut l'habituer à une certaine socialité, lui permettre des sorties, lui permettre des visites de sa famille, lui permettre de correspondre un peu plus librement avec sa famille aussi, notamment pour les malades convalescents et curables. Ce n'était pas une doctrine qui s'appliquait à la population de l'asile dans son ensemble. Donc il ne faut pas s'imaginer que Marandon de Montiel aurait mis à bas les jours de l'asile du jour au lendemain.
Oui, parce qu'il y a aussi des déments, enfin, des gens qui sont manifestement incurables dans le lot.
Oui, il y a des déments, des incurables, il y a des agités et des déments séniles notamment qui vont être relégués dans certains quartiers de l'asile de l'aliéné. Et les mesures plus libérales de Marandon de Montiel, elles vont surtout s'appliquer aux malades tranquilles, travailleurs, susceptibles de sortir.
Le médecin-chef est souvent aussi le directeur de l'asile. Et il faut un certificat médical pour rentrer à l'asile, quel que soit le mode de placement. Un certificat de quinzaine, donc au bout de 2 semaines, pour confirmer ou non le maintien. Et puis, il faudra aussi un 3e certificat au minimum pour autoriser la sortie. Est-ce qu'on assiste aussi à une lutte entre, d'un côté, le pouvoir des médecins et de l'autre, celui de l'administration et du pouvoir judiciaire, pour savoir qui, d'une part, contrôle l'asile et d'autre part, qui décide qui est fou ou qui ne l'est pas?
Oui, ces pouvoirs médical, administratif, etc. Alors souvent, ils agissent de concert, mais il peut y avoir des cas aussi, effectivement, où ils s'opposent, où il y a des tensions, des divergences de points de vue. Peut-être que le principal contrepoids au pouvoir du médecin, c'est quand même le préfet. Et d'ailleurs, techniquement, c'est le préfet qui décide de l'internement ou de la sortie de l'asile sur proposition du médecin. Donc dans le texte de loi, c'est bien le préfet qui dispose, même si évidemment, il n'est pas là au quotidien pour observer les malades. Et donc, c'est l'initiative d'une proposition de sortie, par exemple, elle va venir du médecin. La loi de 1838, elle prévoit un certain nombre de mécanismes de contrôle aussi. Elle prévoit, par exemple, des visites trimestrielles par un certain nombre d'autorités, le préfet, encore une fois, le président du tribunal, le procureur du roi devenu procureur de la République, le juge de paix, le maire de la commune, etc. Toutes ces personnes-là visitent régulièrement l'asile et ils en profitent pour paraffer les fameux livres de la loi dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a cette forme de vigilance qui est exercée sur les pratiques d'enfermement. La justice, en revanche, est quand même assez largement mise de côté et c'est au fondement de très nombreuses critiques de la loi de 1838 qui permettrait de cette manière à l'arbitraire de prospérer. Il y a tout un courant critique de la loi de 1838 et des asiles d'aliénés qui s'est développé, notamment à la fin du Second Empire, et qui a beaucoup été étudié par l'historienne Aude Fauvel, et qui montre que ces critiques se sont beaucoup focalisées autour de cette question des séquestrations arbitraires permises par la loi de 1838, du fait de l'absence de droit de regard de la justice sur ces procédures. Alors, absence de droit de regard, peut-être juste pour nuancer, on peut dire que la justice peut parfois intervenir a posteriori sur des placements à l'asile. C'est l'article 29 de la loi de 1838 qui le prévoit. L'interné lui-même peut demander au tribunal civil d'examiner sa situation et, si besoin, de demander sa libération de l'asile d'aliéné. Mais c'est une procédure qui est très peu utilisée. Même si, la dernière décennie du 19e siècle, dans la décennie 1890-1900, on voit qu'il y a certains magistrats qui essaient de faire un usage un peu plus fréquent de cet article, et ce qui embête un petit peu quelques médecins qui s'en plaignent dans leurs publications.
Oui, parce que ce côté arbitraire, il est aussi un peu lié au rôle des médecins qui sont présents au quotidien. Ils restent au centre du processus, même s'il y a des visites extérieures. Et par exemple, beaucoup de lettres conservées dans le dossier sont des échanges entre la famille et le médecin, ou entre l'aliéné et le médecin, le plus souvent pour demander la sortie. Et on voit que ces lettres, elles ont un peu toute la même structuration, elles obéissent à un dilemme, c'est-à-dire que d'un côté, il faut reconnaître les bienfaits du traitement d'isolement pour ne pas vexer le médecin, mais en même temps, il faut réussir à en montrer un peu suggérer les limites. Et donc on voit que c'est toujours un équilibre qui paraît fragile entre l'acceptation d'être à l'asile, mais en même temps, le souhait d'en sortir.
Oui, en effet, cet exercice de la supplique, de la demande de sortie pour les internés, il est assez délicat, parce qu'il faut plaider sa cause sans remettre en cause trop ouvertement l'autorité médicale. C'est un exercice difficile pour les internés, pour leurs familles aussi, et d'ailleurs, assez souvent, les internés et les familles, sans forcément s'en rendre compte, n'utilisent pas exactement les bons mots, parce que en essayant de plaider pour la libération d'un interné, ils vont parfois un petit peu battre en brèche justement la doctrine de l'isolement thérapeutique qui est au fondement de l'autorité médicale. Il y a beaucoup de lettres des familles notamment qui expliquent que pas en enfermant, c'est pas en privant l'aliéné du contact avec les êtres qui lui sont chers qu'on va vraiment améliorer son état, et qu'en fait il serait bien mieux chez lui, entouré de l'affection de ses proches, pour pouvoir se rétablir et avancer vers la guérison. Et ça, évidemment, c'est reçu avec beaucoup de distance par les médecins, qui estiment que le milieu, l'ambiance familiale est très rarement propice à une bonne guérison de la folie. Et pour les internés, du coup, effectivement, la prise de plume est toujours un exercice un petit peu délicat et dangereux, parce que dans ce qu'ils vont coucher sur le papier, ils prennent aussi un petit peu le risque de donner des preuves supplémentaires de leur folie aux médecins. L'historien Philippe Artière a beaucoup travaillé sur cette question du regard médical sur l'écriture des aliénés, dans un livre qui s'appelle « Clinique de l'écriture ». Et il montre comment, finalement, l'écrit a pu être décodé, décrypté par les médecins aliénistes comme un élément clinique permettant d'établir des diagnostics, à la fois dans les thèmes abordés, mais aussi dans la graphie des lettres. Certains médecins aliénistes ont pu essayer de retrouver des traces ou des confirmations de la folie qui pouvaient paradoxalement parfois être un petit peu dissimulé dans le dialogue, mais qui se trahissait par l'écrit.
Cela ne nous paraîtrait pas surprenant aujourd'hui que des personnes enfermées prennent leurs plumes et écrivent, mais c'était quelque chose, on doit le rappeler, d'assez inhabituel au XIXe siècle, hein, notamment au vu de la population internée qui est pour partie peu lettrée, et puis la correspondance à l'époque était aussi une affaire de femmes. Donc là, on touche des catégories de gens qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer et qui prennent la peine quand même de coucher par écrit leurs sentiments, leurs suppliques à destination du médecin.
Oui, c'est ça que je trouve intéressant aussi dans ces écrits, c'est qu'on comprend souvent que effectivement les circonstances un petit peu exceptionnelles du placement à l'asile ont poussé des individus à se dire, à se raconter en prenant la plume, alors même que souvent c'était un exercice auquel ils n'étaient pas habitués. Et donc finalement, l'asile d'aliénés, tout en enfermant ces personnes, les a aussi poussés à livrer des récits de vie. Certains sous une forme semi-autobiographique ou en écrivant des mémoires à proprement parler. J'ai notamment eu l'occasion de travailler sur l'itinéraire d'un interné qui s'est retrouvé à l'asile de Quimper et qui a écrit une autobiographie à destination du directeur médecin. Et donc finalement, ce moment un petit peu exceptionnel de leur placement à l'asile, en fait, il les pousse à formuler ce genre de récit de vie, parce que bien souvent, leur objectif est de montrer au directeur médecin que leur place n'est pas à l'asile d'aliénés, et donc ils doivent raconter un peu leur trajectoire pour essayer de dénouer un malentendu et pour convaincre le médecin que leur place est en dehors de l'asile d'aliénés dans la société.
Vous consacrez un long développement sur ce que fait l'asile aux aliénés. On voit à l'œuvre un processus de perte de leur capacité civile. Est-ce que vous pouvez nous dire comment évolue le statut juridique de l'aliéné à son admission? Et est-ce que les aliénés internés ont conscience de ce déclassement social?
L'aliéné, en fait, au moment où il entre à l'asile, il devient un mineur juridique. La loi de 1838 a cette particularité, hein. Elle ne prévoit pas seulement un acte administratif de placement d'un individu dans une institution d'enfermement. Par le même mouvement, en fait, elle modifie leur statut juridique, et elle fait que les internés perdent leurs droits civiques, si ce sont des hommes, mais par exemple s'ils ont le droit de vote, qui est alors suspendu, et puis perdent leurs droits civils également. Donc ils ne peuvent plus intenter d'action en justice, ils ne peuvent plus passer de contrat, ils ne peuvent plus consentir au mariage de leurs enfants mineurs, par exemple. Mmh. Toutes ces séries d'actes qui pourraient être amenés à signer à l'asile d'aliénés peuvent être en fait attaqués devant les tribunaux et annulés pour cause d'aliénation mentale. Bien souvent, les internés sont très conscients justement de cette forme de dégradation, alors qu'il y a cette dimension juridique, mais qui ne se résume pas à ça, bien sûr. Hein, c'est un processus social plus large, une forme de déchéance qui est ressentie au moment de l'entrée dans l'institution. Il y a une image qui revient souvent, et Aude Fauvel l'avait constaté aussi dans ses travaux, c'est celle d'une mort sociale, d'une mort civile, d'une forme de mise au tombeau anticipée. Et vraiment, c'est une formule assez frappante qui revient assez souvent, cette impression d'être un peu retranché de l'ordre des vivants, alors même qu'on n'est pas encore mort. Et un des effets aussi intéressants, finalement, de cette mise sous tutelle des aliénés, c'est le fait que, finalement, peut-être parfois, ceux qui ont le plus à y perdre, ce sont les personnes qui étaient dotées de ressources sociales, économiques. Alors, bien évidemment, ce sont aussi les personnes qui ont le plus de moyens, peut-être, de s'en sortir, de ressortir de l'asile, de s'émanciper de la tutelle de l'asile. Mais en même temps, c'est souvent aussi ceux, je pense par exemple aux hommes chefs de famille, qui perçoivent de manière la plus aiguë peut-être leur disqualification sociale, parce que du jour au lendemain, ils se retrouvent placés dans cette forme de minorité juridique et déchus un petit peu de leur prééminence, du rang qu'ils occupaient notamment dans leur famille. Et donc ça donne lieu parfois aux plaintes aussi les plus spectaculaires.
Vous montrez aussi que cette institutionnalisation, elle n'est pas forcément linéaire. On a dit un petit mot tout à l'heure sur les transferts. Vous montrez qu'il y a aussi une vraie circulation asilaire, c'est-à-dire que des gens sont transférés d'un établissement à l'autre, et souvent les établissements de la région parisienne sont bondés et puis doivent envoyer des résidents vers des établissements de province moins remplis. Est-ce que ça, c'est une étape décisive dans le parcours des asilés ?
Oui, c'est souvent un moment un petit peu de rupture. Cette pratique du transfert dans les asiles de province, donc, qui est véritablement massive, hein, au point que, au cours des années 1860-1870, il y a davantage d'aliénés au compte du département de la Seine qui sont placés dans des institutions de province que d'aliénés parisiens placés dans les asiles du département lui-même. En principe, ces transferts, ils visent des aliénés qui sont incurables et qui ne reçoivent pas ou qui reçoivent peu de visites de leur famille. Mais les médecins sont nombreux à témoigner dans leurs rapports médicaux annuels, etc., qu'au bout d'un moment, ils sont obligés de s'affranchir de ces règles-là. D'autant d'ailleurs que ces deux catégories de malades qui se recoupent pas forcément. On peut avoir des malades incurables à l'asile depuis assez longtemps, mais qui en fait sont très souvent visités, et d'autres pour lesquels ce serait l'inverse. Donc ça met les médecins dans des situations un petit peu délicates. Toujours est-il que le transfert devient un petit peu par la suite une sorte de prophétie autoréalisatrice, parce qu'effectivement, une fois qu'on est transféré, on a beaucoup moins de chances de sortir, et du fait de l'éloignement géographique, on est beaucoup moins visité par sa famille. Les liens familiaux sont véritablement fragilisés par ce transfert qui peut parfois être à destination d'asile d'aliénés très, très éloignés de Paris. Surtout au XIXe siècle, où les temps nécessaires au voyage sont plus importants qu'aujourd'hui. Pour donner un ordre de grandeur, hein, à un moment dans le livre, je détaille le parcours collectif d'un groupe de 151 malades qui ont été transférés à quelques années d'intervalle à l'asile de Quimper. Et donc sur ces 151, il y en a seulement 7% qui obtiennent leur sortie de manière régulière, 82% qui vont mourir dans leur institution d'accueil, donc à Quimper. Et puis la dizaine de pourcents restants, ce sont des personnes qui soit s'évadent, soit sont retransférées ailleurs. Mais donc plus de 80% qui meurent à l'asile aliéné, à comparer un taux légèrement supérieur à 50% pour la population asilaire dans son ensemble. Donc il y a une différence assez nette et qui montre bien que très souvent, ce moment du transfert, il avalise ou il accélère un processus de chronicisation qui destine à une mort à l'asile.
Cet isolement social et cette mort sociale, pour reprendre le terme que vous avez utilisé, il se voit aussi par le fait que les aliénés ne se constituent pas en communauté, contrairement à d'autres groupes comme les prisonniers ou les malades des hospices. Et ça tient aussi au fait que pour justifier sa sortie et son bon état de santé mentale, l'aliéné ne doit pas faire corps avec ses co-aliénés, mais il doit se démarquer d'eux en montrant qu'il est plus sain qu'eux.
Oui, en tout cas, c'est un registre argumentatif, rhétorique, qui revient très souvent dans les lettres de demande de sortie. Et il y a une intériorisation assez forte du stigmate de l'aliénation mentale. Et il y a une véritable volonté d'échapper à tout prix à cette forme de déchéance que constitue le placement dans ce monde de l'asile d'aliéné. Très souvent, les aliénés qui écrivent, qui prennent la plume pour demander leur sortie, voilà, ils témoignent du fait qu'ils estiment que leur place n'est absolument pas au milieu de ces autres malades, très atteints, parfois gâteux, etc. Du coup, cette forme, on va dire, d'individualisme dans les suppliques, elle fait un petit peu obstacle, effectivement, à la constitution d'un groupe cohérent ou à la posture de ce que Serge Pogam a pu appeler l'assistance revendiquée, c'est-à-dire où on se reconnaît comme bénéficiaire d'une mesure d'assistance et dans ce cas-là, on prend la parole un petit peu collectivement pour réclamer des améliorations du régime commun, par exemple, etc. C'est des choses qu'on observe assez rarement à l'asile d'aliéné, justement parce qu'il y a peut-être davantage cette conviction que c'est individuellement qu'on va pouvoir s'arracher à ce groupe et à cette institution et s'en sortir.
Oui, ces actions d'auto-défense ou d'auto-promotion, effectivement, elles, vous le montrez, elles restent minoritaires. Alors, qui dans le milieu extérieur, dans la société, prend la défense des aliénés au XIXe siècle ?
Alors, c'est peut-être le moment de parler un petit peu des familles dont j'ai pas encore complètement parlé. Tout à l'heure, on évoquait les contrepoids au pouvoir du médecin. Un de ces contrepoids, hein, c'est pas seulement les autorités qui contrôlent l'action médicale, c'est aussi au quotidien les familles qui font irruption quotidiennement ou presque dans l'univers asilaire et qui vont pas hésiter à réclamer, à revendiquer, à réclamer la sortie de leur malade, à réclamer parfois aussi au contraire le maintien à l'asile, la prolongation d'un internement. Et donc tout ça donne très régulièrement des petits accrochages ou des désaccords avec les médecins. Médecins qui, pour autant, et malgré toute la méfiance qu'ils développent envers les familles, parce qu'ils ont cette idée que les familles, bien souvent, entravent le processus thérapeutique, médecins qui sont bien obligés, malgré tout, de composer avec ces familles, notamment parce que s'ils veulent faire ressortir un certain nombre de malades pour lutter contre un encombrement qui est vraiment permanent, hein, qui s'est vraiment installé après quelques décennies de fonctionnement de la loi de 1838. À partir des années 1860, on va dire, ce constat de l'encombrement des asiles, il est assez répandu à l'échelle du territoire français. Et donc, il faut composer avec ces familles pour pouvoir préparer des sorties, préparer des sorties négociées de manière à ce qu'elles se déroulent dans de bonnes conditions. Donc, les internés, voilà, ils trouvent ces défenseurs-là. C'est d'abord souvent les proches auxquels on fait appel. Et puis, d'une manière plus générale, il y a aussi ce courant d'opinion qui est alors pas forcément exactement en faveur des aliénés, parce que c'est pas forcément un groupe social ou politique justement bien identifié, mais en tout cas un courant d'opinion qui est assez critique des asiles d'aliénés, de l'autorité des médecins aliénistes. Les internés sont très conscients en fait de ces discours critiques qui circulent dans les journaux, etc. Et il montre assez souvent une grande capacité à se réapproprier des éléments, même parfois assez pointus, assez techniques, des discussions sur la loi de 1838, parce que sa réforme est périodiquement discutée dans les arènes de débat national. Et donc, bien souvent, il se réapproprie ces éléments-là pour légitimer aussi leurs demandes et peut-être aussi, justement, pour nuancer un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, pour dépasser la singularité de leur cas et pour déboucher vers des principes plus généraux ou universels qui les dépassent, c'est-à-dire de défense contre l'arbitraire du pouvoir médical.
Cette loi, vous l'avez dit, elle suscite des critiques tout au long du XIXe siècle, avec plusieurs tentatives de réforme, mais qui n'aboutissent pas. La première question, c'est qu'est-ce qu'on reproche à la loi ? Ou est-ce qu'on ne reproche rien à la loi, mais finalement aux conditions d'application en pratique réelle ?
On lui reproche beaucoup de choses. On lui reproche principalement à l'insuffisance des garanties de la liberté individuelle. Voilà, c'est vraiment ce grand motif de critique hein, qui part généralement d'affaires de séquestration arbitraire pour nourrir une critique de la loi de 1838. Ça, c'est un des thèmes principaux qui court un peu tout au long du XIXe siècle. Mais c'est pas le seul. Il y a aussi un certain nombre d'insuffisances de la loi qui sont pointées parfois par les médecins eux-mêmes, qui sont notamment relatives, on va dire, à l'uniformité du cadre asilaire qui est prévu par la loi et au fait que ne sont pas prévues d'autres institutions, d'autres types de législation qui pourraient être adaptées à des catégories de malades particulières. Par exemple, il est assez régulièrement question aussi du cas des malades alcooliques dont on ne sait pas très bien quoi faire dans le cas de la loi de 1838. Donc il y a beaucoup d'appels à soit modifier cette loi, soit légiférer de manière complémentaire sur le cas des malades alcooliques. Il y a aussi des médecins qui pointent d'autres insuffisances, le fait par exemple que la loi ne dit rien de tous les aliénés en liberté, ceux qui sont gardés à domicile, et donc ils réclameraient des mesures qui iraient dans le sens de la création de dispositifs de contrôle de ces aliénés qui pourraient être gardés chez eux, mais tout en étant déclarés aux autorités publiques. Voilà, donc il y a toute une série de discussions, de critiques, qui malgré tout ne vont pas aboutir. D'abord parce qu'il y a quand même un équilibre qui est très délicat à trouver, hein, entre les différents impératifs que la société réclame aux médecins aliénistes, impératifs de protection de la société, impératifs de protection de la liberté individuelle. Donc les curseurs ne sont pas évidents à placer. La question de l'intervention judiciaire aussi fait l'objet de beaucoup de débats, mais ne débouche pas forcément sur un consensus sur la place qu'on pourrait donner aux juges sans tout entraver, sans augmenter tous les délais de traitement des procédures d'internement, etc. Donc il y a une difficulté dans cette recherche d'équilibre qui fait que les discussions prennent du temps et tardent à déboucher sur des solutions consensuelles. Et puis peut-être finalement qu'une raison plus fondamentale, c'est que cette loi, elle est très critiquée, mais bon an, mal an, elle remplit sa fonction, dans le sens où effectivement, et c'est tout ce processus que j'essaie de détailler dans le livre, il y a une forme d'acculturation, on peut dire, de la société française à la loi de 1938, où toute une série d'acteurs ont fini par apprendre à se l'approprier, à maîtriser un peu ces mécanismes et à l'utiliser à leur propre fin, que ce soit les médecins d'hospice cherchent à se débarrasser de certains de leurs pensionnaires, que ce soit les policiers et les gendarmes, bien sûr, que ce soit les familles aussi, qui finissent par beaucoup utiliser le placement volontaire quand certains obstacles financiers sont levés. C'est par exemple le cas dans le département de la Seine. À partir des années 1870, le Conseil général permet des placements volontaires qui sont pris en charge financièrement par le département. Et à partir de cette date, on voit effectivement que les familles y ont trouvé leur compte et ont davantage eu recours au placement volontaire. Donc voilà, finalement, cette loi satisfaisait aussi un certain nombre d'intérêts et ça ne poussait pas forcément à la chambouler ou à la réformer de manière précipitée.
Et d'ailleurs, même si la période d'étude du livre s'arrête au début du XXe siècle, cette loi, elle reste effective, je l'ai vu, jusqu'au 27 juin 1990. Donc, des débats continuent dans l'entre-deux-guerres et puis après la Deuxième Guerre mondiale, mais effectivement, elle va rester quand même un siècle et demi quasiment en vigueur. Et elle ne traite pas notamment de la sortie, et vous montrez, c'est une bonne partie aussi du livre, quelles sont les difficultés que les aliénés rencontrent à la sortie. Il y a des institutions qui les prennent en charge, des patronages, une société caritative, la société Falleret, basée dans le 15e arrondissement. Que deviennent ces aliénés à la sortie? Est-ce qu'ils sont marqués de ce statut à vie?
Alors, pour répondre à la question, il y a d'abord un problème de source, évidemment. Souvent, on perd de vue les aliénés précisément au moment où ils sortent de l'asile. Mais malgré tout, les archives des asiles d'aliénés sont ainsi faites que parfois, notamment par le jeu de l'emboîtement des dossiers d'internement successifs quand une personne est revenue à l'asile, on peut documenter un petit peu ses parcours à trous et puis essayer de comprendre ce qui s'est passé dans ces intervalles de liberté qu'ont connus ces aliénés qui vont et viennent à l'asile d'aliénés et qui sont assez nombreux, même s'il y a beaucoup de trajectoires qui sont, on va dire, plus linéaires avec des internements très longs et une mort à l'asile. Il y a aussi une minorité de patients qui va et vient beaucoup. Et donc ces parcours-là, même si c'est un angle particulier sur la question, évidemment, mais ils permettent d'observer un petit peu ces mécanismes, et notamment ce stigmate du passage par l'asile d'aliénés, qui pèse très fort sur les parcours, qui est évidemment un obstacle au moment de retrouver un emploi, au moment de revenir dans son quartier. Et on a certains dossiers qui témoignent un petit peu de cette hostilité du voisinage à l'aliéné revenu de l'asile d'aliéné. Et puis cette forme de passif finalement que crée le passage par l'asile d'aliéné pour des individus qui, s'ils ont de nouveau par la suite maille à partir avec l'autorité policière par exemple, si on apprend qu'ils, par le passé, ils ont été internés dans des asiles d'aliénés, ça peut faciliter leur renvoi vers l'asile d'aliénés. Une autre manière de documenter des parcours en dehors de l'asile et après l'asile, c'est effectivement ces sociétés de patronage pour aliénés. Il en existe quelques-unes. La principale, et qui est la première à être créée, enfin, même si l'antériorité de sa création est un petit peu discutée avec une autre société de patronage qui est créée à l'asile de Stefansfeld dans le Bas-Rhin. Mais donc c'est cette société de patronage créée par l'aliéniste Jean-Pierre Falleret en 1841 à Paris, puis qui va prendre une certaine ampleur par la suite, qui à la fois distribue des secours aux aliénés qui sortent de l'asile, qui permet de leur rendre visite aussi avec tout un réseau de bienfaiteurs qui quadrille un petit peu le territoire parisien, et puis qui également va créer un asile ouvroir, qui est une institution destinée à prendre en charge de manière transitoire des femmes sorties des asiles de la Seine. Et donc, par le biais de ces institutions, on peut aussi essayer de comprendre ces trajectoires et la manière dont ces individus essaient de reprendre pied difficilement dans la société. Mais ce dont témoignent tous les bienfaiteurs et les philanthropes qui animent ces sociétés, malgré leur volonté évidente de mettre en avant les bienfaits de leurs actions, très souvent eux-mêmes doivent constater que c'est une œuvre assez difficile que de faciliter le retour à la vie civile de ces anciens aliénés. Et puis, d'une manière plus générale, ces sociétés de patronage, elles peuvent prendre en charge des effectifs numériquement assez négligeables par rapport au très grand nombre d'aliénés qui, chaque année, sortent des asiles.
Donc certains, en tout cas, arrivent à sortir et à reprendre pied dans la société, mais pas tous. Et pour terminer, je voulais vous poser une question sur la couverture du livre. Je termine souvent les entretiens par ça. On voit un homme qui, justement, est, j'imagine, sorti. On a du mal à déterminer s'il est fou, s'il est absent, déprimé, désespéré, ou peut-être tout cela à la fois. De qui s'agit-il ?
Lui n'est pas sorti de l'asile au moment de la photo. Il fait partie en fait d'une série de photographies qui ont été prises par le docteur Henri Dagonet à Sainte-Anne à la fin des années 1880. Là, j'en ai fait un usage, disons, illustratif pour la couverture du livre, mais il y a une historienne, Alice Montois, qui a fait une analyse plus détaillée de ces deux albums photographiques dans le cadre d'un mémoire qu'elle a rédigé sur l'asile Sainte-Anne. Cet homme, ce qu'on peut apprendre de lui, d'après la légende de la photographie, c'est qu'il est atteint de délire alcoolique aigu et de terreur. Sur une autre photographie, en fait, il est montré avec une camisole de force. Celle que j'ai choisie, en tout cas, il me semblait qu'elle avait le mérite de justement ne pas procéder à une mise en scène trop appuyée, comme ça peut être le cas souvent de ces photographies qui peuvent avoir vocation à illustrer finalement une sorte de galerie de portraits des différentes variétés de folie, avec parfois une forme de mise en scène assez appuyée. Et donc là, effectivement, il y avait ce regard un peu frontal de face, dans lequel on peut voir beaucoup de choses, en effet, que je ne me hasarderai pas forcément à interpréter, mais qui en tout cas correspondait à cette ambition du livre de faire un récit centré sur les aliénés. Et donc l'idée est de ne pas reprendre une des images très souvent reproduites qui mettent en scène plutôt les médecins dans leurs institutions.
Oui, puis c'est bien d'avoir choisi une couverture un peu sobre, parce que vous auriez pu prendre la photo en camisole, mais ça aurait rejoint quasiment ma première question en disant il aurait fallu mettre fou en grand comme argument marketing, mais vous avez choisi le vrai terme scientifique aliéné. Merci beaucoup, Anatole Lebras, pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre livre, Aliéné, une histoire sociale de la folie au XIXe siècle. C'est chez CNRS Éditions, déjà sorti et disponible en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Anatole.
Merci pour l'invitation.